mesdames et messieurs, personne ne veut revenir sur le caractère décentralisé de la République. En tout cas, certainement pas le gouvernement, certainement pas la majorité parlementaire et certainement pas les élus locaux. En revanche, puisque nous citons la Constitution, il est vrai que l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi votée par le Parlement répartisse les compétences entre l'État et les collectivités locales, ou entre les collectivités locales, et que ça relève du domaine de la loi. Cette répartition, qui est un acte politique, elle doit permettre de faire en sorte que les choses fonctionnent mieux. Elle doit permettre de corriger ce qui peut l'être et ce qui doit l'être. Elle doit permettre d'accentuer, sur certains sujets, cette décentralisation. Nous avons engagé des transformations. Certaines de ces transformations, vous les avez évoquées, je pense à la lutte contre la pauvreté, je pense à l'apprentissage, nous amènent, c'est vrai, à aborder les choses de manière différente. Un mot, puisque vous avez évoqué l'apprentissage, en disant qu'il n'y avait eu... vous ne l'avez pas vraiment dit comme ça, enfin vous l'avez quand même dit un peu comme ça, Hervé, qu'il n'y aurait pas eu de concertation. Je peux d'autant plus en témoigner que vous y étiez, et moi aussi, et que ça se passait dans le salon bleu de Matignon. Donc nous savons qu'il y a eu des concertations. Et nous savons que vous avez toujours formulé des arguments qui, pour certains, ont été entendus et pour d'autres, n'ont pas été repris. C'est vrai. Mais, de grâce, pour la qualité du débat public, ne disons pas qu'il n'y a pas eu de concertation. De même, vous évoquez Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui, selon vous, aurait dit que l'apprentissage, pardon, que le nombre d'apprentis aurait été considérablement multiplié. C'est pas exactement ce qu'a dit Muriel Pénicaud. Elle a dit que le nombre de demandes d'apprentissage a été considérablement multiplié, plus 40%. Nous avons assisté cette année à une augmentation considérable de la demande d'entrée en apprentissage. Pas du nombre d'apprentis encore, de la demande. C'est une excellente nouvelle, hein, parce que, justement, cette appétence des Français pour l'apprentissage, cette espèce de réticence culturelle à l'apprentissage, était vécue comme un problème. Nous sommes en train de dépasser cette réticence culturelle. Il faut donc maintenant être à la hauteur de la tâche. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé au Parlement ces transformations. S'agissant de la lutte contre la pauvreté, là aussi, des présidents de conseils départementaux, je pense par exemple, cher Dominique, au président Klein, a été chargé d'une mission par le gouvernement avec la députée de Marseille, du reste, sur justement comment est-ce qu'on pouvait avancer sur les questions de RSA. Et on produit des rapports dont nous tenons compte, c'est plutôt une bonne chose. Et ils l'ont fait avec leur expérience. Une expérience de terrain, une expérience d'élu local, une expérience d'élu compétent qui gère spécifiquement tel ou tel dossier. Notre objectif, c'est de créer, pour améliorer une politique qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, d'améliorer les choses et de créer un service public, un véritable service public de l'insertion. L'État ne pourra pas faire les choses seul, il le sait parfaitement. Il sait que pour construire ce service public de l'insertion, il faudra qu'il s'appuie, qu'il travaille, qu'il réfléchisse et qu'il mette en œuvre les choses avec les collectivités territoriales, avec les départements, bien entendu, mais aussi avec les métropoles, qui connaissent aussi leur tissu économique, avec les régions, bien entendu, qui ont un rôle majeur en la matière. À l'inverse, quand le législateur décide de remettre une politique publique entre les mains d'un échelon décentralisé, il faut que l'État respecte ce choix. Je suis d'accord avec vous. Assumer ce choix, c'est donner aux collectivités concernées la possibilité d'innover, d'expérimenter, d'adapter. D'ailleurs, dans le droit actuel, vous savez qu'on est condamné au choix binaire de l'abandon de l'expérimentation ou de sa généralisation. C'est le droit tel qu'il existe, tel qu'il a existé depuis bien avant que nous n'arrivions aux affaires. Je pense qu'il faut corriger cela. Je pense qu'il faut accepter le risque, ou plus exactement l'opportunité, parce que je ne crois pas que ce soit un risque, de la différenciation. C'est ce que vous demandez, c'est ce que demandent beaucoup d'élus locaux, c'est ce à quoi je crois. J'y crois tellement qu'avec le président de la République, nous avons décidé de l'inscrire dans la révision constitutionnelle, de faciliter le droit à la différenciation, de faire en sorte que ce soit plus simple pour une collectivité locale de différencier sa façon d'appliquer une politique publique, de concevoir ou de penser, de mettre en œuvre une politique publique. La révision constitutionnelle n'a pas, mesdames et messieurs, avancé à ce stade au rythme où j'aurais aimé qu'elle avance. Je ne suis pas sûr d'être le premier responsable de cette avancée trop lente, mais je vous confirme que nous sommes extrêmement attachés à l'idée d'inscrire dans la Constitution et de simplifier ce principe de différenciation. Il est indispensable pour les collectivités locales, et je pense qu'il est indispensable pour le pays. Assumer ce choix, c'est aller plus loin. C'est aussi accepter que l'État ne s'occupe plus du tout d'un certain nombre de missions. Et que pour certaines missions, le périmètre de son action s'allège pour tenir compte de l'intervention des collectivités territoriales. Le 24 juillet dernier, j'ai, par une circulaire adressée notamment au préfet, engagé une réorganisation territoriale de l'État avec une idée claire et une idée simple, mettre fin aux doublons là où ils existent. Et il y en a encore. On va les supprimer. On va les supprimer complètement. Il y en a, par exemple, on aura l'occasion d'évoquer les doublons, je vais attendre les retours que me font les préfets, mais on sait qu'il existe des doublons. Eh bien, on va les supprimer. Et je trouve ça naturel, et je trouve ça normal, et ça va exactement dans le sens de ce que vous demandez. Assumer ce choix, enfin, c'est diminuer les normes dont on se plaint si souvent et depuis si longtemps. Juste un mot, c'est pas spectaculaire, je sais, mais je sais que les élus locaux comprennent très bien ce que je vais dire. Traditionnellement, les gouvernements prenaient environ une centaine de décrets dans le pouvoir réglementaire autonome de l'État, une centaine de décrets par an. C'est à peu près la moyenne si on regarde les 10 dernières années. Nous avons indiqué aux administrations que c'était trop et qu'à chaque fois qu'ils apporteraient une norme, ils allaient en supprimer un certain nombre. Moyennant quoi, je le dis parce que ça n'est pas sans intérêt, nous sommes passés d'une centaine en moyenne à 18, un peu moins de 20. Et nous avons supprimé, je crois, près de 10 000 circulaires, et nous avons supprimé 41 textes réglementaires qui imposaient... Ça ne change pas la vie immédiatement, et encore une fois, je n'ai aucun doute, ça ne sera jamais spectaculaire. Mais c'est un travail sérieux, minutieux, qui permet d'éviter de faire peser sur les collectivités territoriales des normes toujours accrues, qui font peser sur leur budget des contraintes toujours plus fortes.